ce qui était normal, enfin je pense, mais en tous les cas, voilà, c'est je l'ai fait une fois, on peut le faire souvent, mais moi c'est pas mon truc, mais j'ai voulu me rendre compte par moi-même, si vous voulez, c'est ça ma démarche en fait.
Ben écoutez François, merci de votre témoignage. Peut-être que ça doit servir aussi pour bon nombre de compatriotes d'un jour assister à ce genre de procès.
Ouais,
là, c'était pas un procès d'assises, il faut rappeler que c'est devant la cour criminelle.
C'est pas un jury populaire. C'est un jury professionnel et c'est très intéressant d'entendre tous ces témoignages de ces personnes qui ont assisté à ces audiences, qui en sortent tous bouleversés. Et moi, je tiens à saluer aussi le travail de vos confrères, de tous ces médias français, internationaux qui ont fait le déplacement à Avignon pour couvrir ce procès parce que le récit qu'ils font de cette salle d'audience, eh bien, je crois, marque la société française. Merci. Et peut-être le monde entier.
Merci François d'avoir été avec nous. Suite des GG, dans un instant, on va regarder ce qui se passe en Espagne avec la régularisation de 900 000 sans-papiers d'ici 3 ans.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nos trois GG, l'avocate Rachel Florpardo, Jérôme Marty, le médecin généraliste, et l'entrepreneur Emmanuel De Villiers. On va parler de l'Espagne. Parce que des dizaines de milliers d'étrangers en situation irrégulière vont pouvoir bénéficier des nouvelles modalités de régularisation qui ont été mises en place par l'Espagne. Ça va concerner 300 000 personnes par an.
Oui, donc 900 000 sur 3 ans. C'est une régularisation massive qui vise notamment à lutter contre le vieillissement de la population. L'Espagne est un pays qui vieillit, comme le nôtre d'ailleurs, ou aussi l'Italie, parce que là, l'Italie a fait la même chose, hein, l'Italie de Meloni. Donc l'Espagne, qui est dirigée par un socialiste, décide de régulariser. Donc pour faire face au vieillissement de la population et pour permettre finalement de maintenir un système qui repose aussi sur la solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. L'Europe, d'ailleurs l'Espagne, il faut quand même le rappeler, est l'un des pays européens qui accueille chaque année le plus de migrants irréguliers en raison notamment de sa situation géographique. Il faut donc des travailleurs étrangers et c'est pour ça que ce gouvernement propose cette régularisation, mais en même temps, ça crée bien sûr du débat et des crispations dans le pays. Je rappellerai que l'extrême droite, Vox, est en plein boom également en Espagne, comme dans d'autres pays européens, notamment sur cette question de l'immigration. Alors, est-ce qu'il faut faire comme les Espagnols pour l'économie, pour sauver notre système, régulariser massivement des sans-papiers?
Oui. Alors, il y a une grosse différence. Là, les gens vont peut-être être surpris. Les gens qui ne connaissent pas bien l'Espagne, il y a une surprise, une différence entre la problématique française et la problématique espagnole, ibérique. Car en Espagne, il s'agit largement d'hispaniques, pleinement compatibles avec une intégration espagnole, des Mexicains, des Vénézuéliens, des Colombiens, des Péruviens, des Panaméens, etc., Paraguayens. Et il y a une culture commune autour de la langue.
Donc c'est plus simple de les intégrer.
De la culture chrétienne aussi, pour dire les choses. C'est beaucoup plus naturel. Il y a un creuset hispanique qui existe, comme jadis on parlait du creuset américain. La problématique française est totalement différente.
Jérôme.
Bah, écoutez, je crois qu'en effet, l'Espagne a connu une crise économique d'abord qui est particulière. Enfin, faut aussi parler de la situation dans laquelle se trouve l'Espagne aujourd'hui. Et moi, je repense aussi à Lucie Castet qui récemment en France, je crois qu'elle avait dit, c'était sur un de vos, sur BFM TV, non? Qu'elle avait dit qu'elle voulait régulariser
tous les
sans-papiers, c'est ça. Et je crois que ça avait provoqué encore un désaccord majeur au sein du Nouveau Front Populaire avec Olivier Faure qui avait dit non, quand même pas tous les sans-papiers, mais ceux qui travaillent. Je crois que régulariser les personnes qui travaillent, notamment dans les métiers en tension, c'était aussi le sens de la loi immigration, de certaines de ces dispositions.
Ça,
je pense aux métiers, ça existe déjà en France. C'est notamment, je pense aux métiers comme l'aide à domicile, la restauration, dans ces secteurs-là, en effet. Et il faut avancer dans ce sens-là pour régulariser ceux qui travaillent dans les métiers dans lesquels on en a besoin.
Donc uniquement régulariser ceux qui travaillent et dans des métiers en tension.
Bah, à l'évidence, quoi.
Moi qui connais bien l'Espagne, après, qui va souvent.
Oui, mais je rejoins ce que disait Emmanuel, mais à côté de ça, la France a ça de particulier, c'est que c'est un pays intermédiaire pour beaucoup de migrants. Ils n'ont pas envie de rester en France, les migrants, souvent. Ils traversent la France pour aller en Angleterre, pour aller ailleurs, mais
pour espérer
aller ils y passent quelques mois, et puis ensuite, ils transitent par la France pour aller vers un autre avenir, sans rester forcément sur la France. Par contre, on a des gens qui sont là, on a des gens qui travaillent déjà dans la restauration, dans d'autres milieux, etc. Ceux-là, à l'évidence, il faut les régulariser. À l'évidence. De toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Il faut arrêter de se mentir. Il y a une immigration qui est forte. Et elle sera de plus en plus forte, on l'a dit, parce que problème économique, parce que guerre, parce que choc climatique, etc. Et donc, il y aura de plus en plus de migrants. Donc, il faut s'adapter à ça. Alors après, il faut effectivement des lois. Il faut être ferme par rapport à la violence, il faut être ferme par rapport à tout ce qui est extrémisme religieux, etc. Mais ceux qui sont implantés et qui travaillent, ben il va falloir les aider parce qu'on en a besoin de toute façon. On en a besoin, on ne pourra pas faire autrement.
Oui, mais la formule de Bruno Retailleau n'est pas mauvaise. Accueillir moins pour accueillir mieux. Et il ne faut pas oublier, Jérôme, parce que ça ne fait pas plaisir à entendre.
Jérôme dit c'est du vent.
Non, mais c'est des phrases.
Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais le problème de l'immigration, il se joue à l'entrée dans un pays. Il se joue à l'entrée dans un pays, car une fois que l'immigrant est rentré dans le pays, c'est très compliqué.
Oui,
donc il va falloir être beaucoup plus ferme que tu ne l'évoques en laissant entendre une simple adaptation à des flux. Il va falloir une fermeté absolue, parce que sinon on sera submergé.
Non, mais tu vois, Emmanuel, je te rejoins. La problématique politique, elle est effectivement aux frontières.
Oui,
mais une fois que la personne est à l'intérieur, de la même façon que tu te dois de la soigner, parce que tu ne peux pas la laisser dégrader, parce qu'elle est sur place, elle y est, ben, tu dois après adapter les choses.
Les UQTF, ça ne marche pas.
Être ferme sur la loi,
qui a été
mais adapter les choses.
On voit bien qu'on ne sait pas gérer ce qu'on ne veut pas garder chez nous. Il y a encore un rapport qui a été publié par un parlementaire où c'est une catastrophe. Les retours aux frontières, on ne sait pas faire. Les UQTF, on ne sait
pas.
Mais on
ne sait rien faire.
Donc là, et ça fait. Pardon, mais Ça fait 20 ans ou 30 ans que j'entends ça, l'immigration choisie. Sarkozy en parlait en son temps. Visiblement, on n'y arrive pas.
Alors, moi, je suis pas d'accord avec Jérôme, qui est un sachant pourtant dans son domaine, parce que tu as dit toi-même, j'ai tes chiffres, qu'un illégal coûte 2500 euros
oui.
par an
oui.
l'AME,
oui.
alors qu'un Français de souche, parce que l'expression n'est pas interdite, il coûte 3100 euros. 2500 contre 3100.
Oui.
C'est quand même pas normal. Va au Paraguay, va voir s'ils vont te soigner comme ça.
Non. Allez. Nous sommes avec Sarah Knafo, qui est la députée européenne Reconquête. Bonjour, Mme Knafo.
Bonjour à tous.
Que pensez-vous de ce que fait l'Espagne?
Évidemment, beaucoup de mal. 900 000 personnes sur 3 ans, c'est une catastrophe. Et ce n'est pas une catastrophe uniquement pour l'Espagne, mais pour nous. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on appartient tous les deux, nos deux pays, à l'espace Schengen. Donc il faut comprendre que quelqu'un qui est régularisé en Espagne aujourd'hui, demain, il peut venir en France, légalement, en toute légalité.
Il y a des règles quand même, il y a des règles. Il ne peut pas s'installer en France durablement.
Il peut venir en France, et après, vous le savez, je vous entendais le dire, donc vous êtes lucide sur la situation, après, la France ne sait pas les expulser. Donc, il vient s'installer en France parce qu'il peut passer la frontière facilement. Et ensuite, bien malin qui peut dire qu'il y a des règles et qu'elles sont respectées. Tout le monde sait qu'elles ne sont pas respectées. Ensuite, j'aimerais juste corriger une petite fake news que j'ai entendue. J'ai entendu, les migrants ne veulent pas rester en France. Alors ça, c'est la dernière étape du dénigrement de la France.
C'est Jean Marty qui a dit ça.
Même les migrants ne veulent pas de nous. Alors c'est une fake news, car on sait, il y a des chiffres, que la France est le premier pays de flux de rebond de toute l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand quelqu'un arrive sur le sol de l'espace Schengen, le premier pays dans lequel il veut venir, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France est la CAF du monde entier. Voilà, ça c'est la vraie raison. Les migrants sont rationnels. Quand vous savez que la France est à la fois le pays le plus imposé du monde et le pays qui offre le plus d'aide sociale du monde, forcément, si vous êtes un immigré qui veut venir travailler, s'enrichir, vous n'allez pas venir en France. C'est le pays le plus imposé du monde avec les normes les plus strictes du monde. Mais quand vous voulez venir profiter d'un système social, bah, la France c'est l'Eldorado.
Néanmoins,
donc ça, c'est une fake news et les chiffres
d'accord.
le prouvent.
Et Sarah Knafo, pardon, il y a un argument quand même qui est avancé en Espagne, socialiste, et avancé aussi en Italie, l'Italie étant dirigée aujourd'hui par Madame Meloni de droite. C'est finalement, il y a un vieillissement de la population, il y a un problème de main-d'œuvre dans certains métiers, bien d'ailleurs sûr. De plus en plus de métiers, parce que maintenant on recrute des médecins étrangers, donc il faut quand même le résoudre ce problème. Les Français, les Espagnols, les Italiens refont des enfants, mais visiblement, c'est pas le sens en ce moment de l'évolution de la société. Soit il va falloir trouver quand même une main d'œuvre.
Absolument. Donc, première réponse, secret, il faut faire des enfants. Voilà, oui, il faut faire des enfants. Il faut une politique nataliste en France. Ça s'encourage. Sans se décréter, ça s'encourage. Regardez ce que fait Viktor Orban, par exemple. Ça peut s'encourager, la natalité. Il y a des familles qui veulent des enfants, mais qui, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, n'en font pas. Ça aussi, c'est documenté. Il y a des gens qui veulent des enfants, mais qui n'en font pas à cause de la société dans laquelle ils vivent. Et là, ça se corrige. Donc, deuxième chose, l'immigration pour motif économique. Rationalisons ce débat. Aujourd'hui, en France, on accueille déjà 360 000 étrangers légalement tous les ans. 500 000 si on ajoute les demandeurs d'asile. Sur ces personnes, vous n'avez que 13% qui viennent pour motif économique. Ça veut dire 40 000 personnes.
Moitié,
40% pour être précise, n'ont aucun diplôme, aucune qualification. Et la plupart maîtrisent même très mal le français. À côté de ça, vous savez qu'en France, on a 4 millions de chômeurs. C'est-à-dire 100 fois plus que les gens qu'on accueille, soi-disant parce que notre économie en aurait besoin. Donc, est-ce que vous pensez sérieusement que des personnes moins qualifiées, qui ne parlent pas notre langue, qui n'ont aucun diplôme, qui ne représentent que 1% du nombre de nos chômeurs, vont vraiment venir sauver notre économie? Franchement, ça ne tient pas la route.
En tout cas, il y a des professions aujourd'hui, sans étrangers, on serait bien embarrassé.
Je vais vous dire que le pire, c'est que sous prétexte de pourvoir ces quelques milliers d'emplois dont vous parlez en disant « on serait bien embarrassé », on accepte à côté d'accueillir des centaines de milliers d'étrangers qui ne travaillent pas. Ça, économiquement, c'est absurde. 13% seulement qui viennent pour motif de travail, ça veut dire
qu'il faut accueillir uniquement ceux qui viennent travailler. Vous voulez supprimer le regroupement familial, on supprime aussi les visas étudiants?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez que les visas étudiants sont devenus aussi une énorme filière d'immigration avec des étudiants qui parfois ne suivent même pas les cours. Ça aussi, ça doit être fait avec discernement. On doit pouvoir accepter des gens qui vont apporter quelque chose à notre pays. Et pour les étudiants, si on souhaite les former, ça doit être une poignée dans quelques secteurs clés où on considère que la France a un intérêt à les accueillir. Mais ça, je pense que c'est du bon sens et que autour de votre plateau, tout le monde sera d'accord. Mais le sujet principal, c'est aujourd'hui de comprendre que l'immigration n'est pas une solution pour notre économie, c'est un problème. Ça n'est pas la solution.
Pourtant, grâce à cette immigration, le FMI prévoit de la croissance en Espagne.
Certainement pas. Non.
Madame Knafo, le
FMI... J'ai mal à vous entendre, tout le monde parle
Je vous en prie, Non, selon les prévisions économiques, on prédit de la croissance avec cet apport, en Espagne d'ailleurs, de la croissance économique avec cet apport de main-d'œuvre.
C'est ce que disent les économistes.
Alors, deux sujets. Premièrement, le sujet économique où je vous dis que pour la France, on pourrait même être un contre-exemple pour tout le reste du continent parce que nous, ça, on l'a fait. Vous citez l'Espagne comme si c'était quelque chose de tout à fait neuf et que personne ne l'avait jamais fait. On le fait depuis les années 70. Donc, on aurait peut-être un retour d'expérience à faire au reste de l'Europe en leur disant, à long terme, nous, on le sait, ça n'apporte pas, mais ça pose problème économiquement. Maintenant, en dehors du sujet économique, parce qu'il n'y a pas que ça, et tous les gens qui nous écoutent sont au courant qu'il n'y a pas que le sujet économique. Vous l'avez dit tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très intelligent, il y a le sujet culturel, effectivement. Nous, vous savez que notre immigration est l'immigration la plus extra-européenne de tout le continent, et l'immigration la plus africaine de tout le continent. C'est-à-dire que, pour le coup, vraiment, culturellement, ça pose des soucis. Tous les professeurs vous le diront, tous les enseignants dans l'université vous le diront également, ça pose des problèmes d'intégration, ne parlons même pas d'assimilation, ça pose des problèmes énormes. En matière de sécurité, maintenant on le sait, c'est tout à fait documenté, on sait qu'il y a évidemment un lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc déjà, je vous dis, sur le terrain économique, on a une telle expérience, après des décennies à avoir tenté, qu'on pourrait dire aux Espagnols, ne croyez pas ça, ne le faites pas, vous verrez dans quelques années. Par ailleurs, pour la France,
attends, c'est pas possible.
Quand vous accueillez, quand vous régularisez quelqu'un,
non, mais, il faut savoir madame, que... Madame, si vous permettez, vous avez beaucoup parlé.
Je suis invitée pour ça.
Vous êtes issu d'une formation politique qui représente très peu de monde. Oui, enfin, donc on va vous répondre. Mais on peut aussi lui répondre.
Tu peux parler sans t'énerver.
Non mais je peux aussi me laisser parler.
Oui.
Moi, ce qui me gêne, c'est pas la couleur, madame. Moi, ce qui me gêne, c'est pas la provenance du sud ou du nord du sud. Moi, j'y suis issu d'un milieu où souvent il y a 80%, 90% de gens qui sont issus des pays du Maghreb, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, des gens qui tous les jours vous soignent.
Et alors ?
Quand je vais à l'aéroport, je vois les forces de sécurité, ceux qui assurent la sécurité, qui sont tous des gens issus de l'immigration, qui sont tous des gens issus du nord du sud. Et vous nous dites, il n'y a pratiquement que des immigrés dangereux, il y a une violence qui est due à eux, etc., etc. À un moment, ça va. Moi, j'aimerais vous entendre parler un peu des trains qui arrivent à l'heure et qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les trains qui n'arrivent pas à l'heure.
Allez-y, madame.
Votre animateur, monsieur.
Allez-y, je vous en prie.
Non, je ne suis pas du tout à deux doigts de la syncope, madame, mais j'en ai assez qu'on monte les gens les uns contre les autres. J'en ai assez qu'on dise aux Français, votre voisin est dangereux, quoi.
Jérôme, docteur Marty, deux secondes. Allez-y, madame Knafo.
Merci beaucoup. Donc, sous prétexte qu'on a quelques immigrés qui sont infirmières et aides-soignantes, on va accueillir toute l'Afrique, si je vous entends. Votre raisonnement, c'est plus.
Non,
que
madame, vous simplifiez
se
tout.
Bien.
Madame, vous simplifiez tout.
Attends, il faut qu'elle finisse. On est tenu par le temps, en plus, Jérôme. Mais allez-y.
Donc, ce raisonnement systématique, on nous le sort depuis les années 1970. Vous dites que je ne représente personne. Regardez toutes les études d'opinion sur l'immigration et dites-moi si vous représentez plus de monde que moi sur ce sujet. Je pense que la réponse, on coule de source.
Madame, il n'est qu'à vous écouter.
Est-ce que vous êtes, vous serez au moins d'accord pour nous dire que les ressortissants de l'immigration sont surreprésentés dans les crimes et les délits? Ça ne veut pas dire tous, excusez-moi, j'essaye de parler avec précision. Ça ne veut pas dire tous, mais ça veut dire surreprésentés. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut avoir un raisonnement empirique et se dire que si une nationalité est surreprésentée dans les crimes et les délits, il ne faut plus l'accueillir? C'est un raisonnement basique.
Et Merci, Sarah.
Non, c'est fini.
Excuse-moi, deux choses.
Non, c'est fini.
Mais oui.
Merci. Merci, madame Knafo, députée européenne Reconquête. L'Espagne va régulariser 900 000 migrants en 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit faire pareil? C'est un non à 90% quasiment. Allez, suite des GG dans un instant.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
C'est Vincent Moscato. Écoutez le Super Moscato Show du lundi au vendredi de 15h à 18h sur RMC. C'est le meilleur show radio du monde avec une équipe formidable. Et surtout moi, bien entendu.
Le Super Moscato Show du lundi au vendredi, 15h-18h sur RMC.
Bonjour, c'est Charles Magnin sur RMC.
RMC, Charles Matin.
On se retrouve tout à l'heure dès 5h en direct pour Charles Matin. Toute l'info, tous les sujets de votre quotidien avec toute la bande. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel et vous, à tout moment, au 32-16. On se réveille tous ensemble pour toute l'actu et votre dose de bonne humeur. Rendez-vous dès 5h sur RMC.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ?
Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Daniel Labaronne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député Ensemble pour la République d'Indre-et-Loire et vous alertez ce matin sur les risques de fraude au diagnostic de performance énergétique. D'abord, je voudrais savoir ce que ça représente, la proportion de fraude, que disent les chiffres et comment est-ce que cette fraude fonctionne.
Bien, une étude récente publiée cette semaine montre que 20% des logements qui étaient en étiquette G sont passés tout d'un coup en étiquette F grâce à des diagnostics de performance énergétique complaisants. C'est quand même un manque à gagner pour les finances publiques, mais ça représente aussi pour les acheteurs, pour les investisseurs, une somme d'argent plus importante de l'ordre de 21 milliards d'euros.
Parce qu'on paye plus cher, un logement mieux isolé. Il faut préciser les choses, quand vous dites que ça passe miraculeusement de G à F, c'est vraiment la limite. C'est-à-dire que F, vous pouvez louer, G, vous n'avez plus la possibilité de le faire.
Voilà, c'est ça. Parce que nous n'avons pas une méthodologie très précise permettant de faire ces diagnostics, parce que vous avez des diagnostiqueurs qui ne sont pas des vrais professionnels, parce que vous avez des diagnostiqueurs qui n'ont pas une identification très très précise,
ils peuvent... C'est un peu au doigt mouillé, quoi, parfois. Notamment pour le logement ancien.
Absolument. Et je crois qu'il faut remettre de l'ordre dans ce dispositif.
Alors, il faut remettre de l'ordre. Moi, j'ai envie de mettre les pieds tout de suite dans le plat. Est-ce que remettre de l'ordre, c'est pas tout simplement supprimer ces diagnostics?
Non, je crois qu'ils sont nécessaires pour permettre d'avoir une idée précise des passoires thermiques, par exemple.
Non, mais quand on vend un logement ou quand on loue un logement, tous ces diagnostics qui s'ajoutent les uns aux autres, parce qu'on en a rajouté, mais on en a rarement supprimé, hein, des diagnostics, les diagnostics thermiques, les diagnostics évidemment sur la vétusté. Là, on arrive quand même effectivement à un millefeuille, et vous arrivez aussi à des situations où certains propriétaires, petits propriétaires, ne peuvent plus ou redoutent de ne plus pouvoir louer leur
logement. Alors, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là de la multiplication des diagnostics, mais je crois que s'il devait en rester un...
Bon, supprimer les autres, je peux compter sur vous, et vous gardez celui-là. Celui-ci, on le garde. D'abord, je voudrais quand même, avant qu'on rentre encore plus dans le détail, comprendre comment elle a lieu, cette magouille. Est-ce que c'est une magouille un peu à la légère? Oh, s'il vous plaît, franchement, faites un effort, faites-moi passer mon logement en F. Ou est-ce qu'il y a du bakchiche?
Écoutez, il y a une pression économique très forte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 21 milliards. Par conséquent, il y a des amicales pressions qui sont faites pour que, quand on est à la frontière, eh bien plutôt d'être en étiquette G, l'appartement ou la maison soit en étiquette F. Moi, je crois qu'il faut réintroduire de l'ordre.
Comment
dans
on
ce
remet
dispositif.
De l'ordre
D'abord, il y a beaucoup de tricheries s'agissant des diagnostiqueurs. On les a identifiés. Manque d'identification professionnelle. On ne sait pas toujours à qui on a affaire, manque d'indépendance par rapport à des agences immobilières ou à des entreprises de rénovation énergétique, et puis manque de traçabilité des diagnostics effectués dans tel ou tel logement, et par conséquent, on a les moyens, je crois, techniques, numériques, juridiques, de mettre en place un dispositif qui permette, premièrement, de bien identifier le diagnostiqueur.
Il ne faudra que des diagnostiqueurs validés.
Mais bien évidemment, certifiés. Alors, les pouvoirs publics ont mis en place déjà des critères de certification et une liste d'identification des diagnostiqueurs certifiés. Le problème, c'est que cette liste n'est pas mise à jour. C'est-à-dire qu'un diagnostiqueur qui a été rayé de la liste, eh bien parce qu'il aurait fraudé,
il continue à
être sur cette liste. Elle n'est pas mise à jour, cette liste. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas de traçabilité de l'action du diagnostiqueur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop sur quoi il se fonde pour avoir fait son diagnostic et avoir dit que son étiquette, que l'étiquette du logement était G, F, E, D, etc.
Monsieur le député, qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin à ceux qui nous écoutent, qui peut-être souhaiteraient pouvoir mettre en location leur logement, ou alors à ceux qui souhaiteraient acheter un logement? Sur quoi doivent-ils être absolument vigilants?
Alors d'abord, ils peuvent aller voir cette liste de diagnostiqueurs certifiés.
Mais par exemple, quand on achète un logement, qu'on vous dit « aucun problème, il est F », mais qu'on a quand même un doute, comment est-ce qu'on peut...
On peut toujours faire une double expertise, c'est-à-dire qu'on peut appeler un autre diagnostiqueur pour qu'il vienne voir le logement.
À sa propre charge.
Bien évidemment, alors ça a des coûts, mais comme ça, vous avez une double évaluation de l'étiquette énergétique de votre logement. Et puis, je crois qu'il faut faire appel à des professionnels qui se dotent d'outils numériques permettant, un, leur identification très précise, permettant, deux, la traçabilité de leur diagnostic, c'est-à-dire pour quelles raisons ils ont mis telle étiquette et pas une autre. Ça peut se faire à l'aide d'outils numériques qui sont en train de se développer. Et moi, je souhaite, s'agissant de cette profession, que tous les professionnels soient dotés de tablettes numériques permettant à la fois de les identifier, mais surtout de savoir très précisément sur quoi ils se sont basés pour permettre d'établir un diagnostic.
Ils justifient donc davantage.
Et qu'il y ait une traçabilité très très forte de leur démarche, avec photos à l'appui, documents à l'appui. Ça se fait en Allemagne. Vous avez en Allemagne un dispositif de certification numérique et juridique, parce que c'est opposable ensuite devant les tribunaux. Le diagnostiqueur peut dire, mais regardez, moi j'ai utilisé un outil, une preuve numérique qui permet de justifier les raisons pour lesquelles j'ai donné tel ou tel diagnostic.
Et tout cela, vous le défendrez dans l'amendement que vous avez déposé et qui sera examiné donc cette semaine à l'Assemblée. Merci beaucoup, Daniel Labaronne, d'être venu donc défendre votre amendement et nous éclairer davantage sur les risques, attention, les risques de DPE bidon.
RMC, Apolline Matin.
Du lundi au vendredi, 6h39. RMC,
les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Vous avez quelque chose à faire tout à l'heure entre 9h et midi? Venez vous asseoir à la table des GG, à la table des grandes gueules. C'est en direct sur RMC, RMC Story, avec Antoine Diers, le Dunkerquois, Joël Dagosséry, la coach de vie parisienne, et avec Stéphane Manigold, le restaurateur. On va causer, discuter ensemble avec vous de ce qui fait la société, de ce qui fait l'actualité, au 32-16, bien sûr.
RMC. 9h midi, les grandes gueules. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, Jérôme Marty, le médecin généraliste, et Rachel Florpardo, l'avocate. D'ici midi, de quoi va-t-on parler dans les GG, dans les grandes gueules? Tout à l'heure, à midi moins 20, on évoquera cette commune de l'Oise. Nous sommes à Amblainville, dans le sud de l'Oise. La commune a tourné une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, Jérôme Marty.
Il y en a eu. Hein.
Une vidéo pour attirer un médecin dans la maison de santé. Le médecin actuel a 70 ans, il s'en va, il n'y a pas de remplaçant. Donc en fait, les habitants sont obligés de tourner une vidéo, ils se mettent en scène du côté un peu humoristique pour dire « Venez, on a besoin de médecins ». Vous vous rendez compte, dans notre pays, le 7e puissance mondiale. Hein. Mm-hmm. Bon, alors, 7e, là, 2024, l'année prochaine, on sera peut-être 8e ou 9e. Ah bon, voilà, c'est les habitants qui sont obligés de tourner une vidéo pour faire venir le médecin. On en parlera avec Jérôme et avec vous tout à l'heure au 32-16. En attendant, évoquons la politique. Michel Barnier ou le chaos? Parce que finalement, c'est le scénario qui nous est proposé, si on se fie à ce qu'on dit dans la majorité actuelle. C'est soit Michel Barnier reste, il y a une stabilité, soit la censure est votée. Et dans ces cas-là, c'est le cataclysme politique. En tout cas, c'est ce que dit M. Bayrou.
Il n'y a personne de responsable dans le pays qui puisse souhaiter que tombe, que chute un gouvernement qui a été nommé il y a 2 mois, mis à part les oppositions. Mais sur le fond, c'est un risque qu'on ne doit pas prendre. Un grand pays comme la France, dans le moment de crise que nous vivons, ne peut pas se permettre des chutes de gouvernements successives. Ça serait une crise de la vie politique française et il n'y a rien de plus souhaitable que de l'éviter.
Voilà, Monsieur François Bayrou.
C'est intéressant, c'est ce que dit Yaël Braun-Pivet, qui dit exactement l'inverse de ce que dit François Bayrou ce matin à la présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit, tous ceux qui disent que ça sera le chaos disent n'importe quoi. La Constitution a tout prévu. S'il y a une motion de censure, Michel Barnier effectivement peut démissionner. D'ailleurs, Emmanuel Macron peut le renommer ou renommer un autre Premier ministre. En tout cas, il y aura un budget. Ça ne sera pas celui-là puisqu'il ne sera pas été adopté. Ça sera le précédent. Donc, en tout cas, c'est assez intéressant parce que Yaël Braun-Pivet dit l'inverse de ce que dit François Bayrou, Édouard Philippe, qui dramatise. Après moi, c'est le déluge. On a l'impression que Barnier doit rester à vie en poste parce que sinon, derrière, on ne sait pas ce qui va se passer. On va quand même rappeler que Michel Barnier n'a pas été choisi par les Français, il n'était pas candidat aux législatives. Personne n'imaginait en juillet dernier que Michel Barnier serait nommé à Matignon. C'est vraiment, on va dire, le fruit du hasard. C'est après avoir épuisé d'autres pistes, finalement, Emmanuel Macron s'est tourné vers Michel Barnier. Et rappelons que Michel Barnier est issu d'un groupe politique qui n'est que cinquième, arrivé cinquième à l'Assemblée nationale, qui est très minoritaire. Donc tout ça ne tient qu'à un fil.
D'habitude, t'es bon, mais là, t'es pas bon.
Le fil peut être coupé parce que j'ai écouté Marine Le Pen qui dit en l'état elle censure puisque le budget ne convient pas. Mathilde Panot a dit la même chose. Éric Ciotti qui a été reçu également par le Premier ministre a dit la même chose. Donc effectivement Michel Barnier pour l'instant ne passe pas Noël à Matignon.
Il y a lieu de s'inquiéter. Parce que vous avez aimé la dissolution catastrophique, vous allez aimer la motion de censure apocalyptique.
Et pourquoi?
Parce qu'on ne peut pas se permettre la vacance du pouvoir, on est menacé par la Russie de tir atomique, et on ne va pas avoir de gouvernement. Ça n'est qu'un exemple. C'est absolument scandaleux. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
On n'a pas eu de gouvernement pendant 2 mois et demi.
On lui reproche quoi à Barnier? D'essayer de boucler un budget pour que l'État trouve prêteur? Parce qu'il faut que l'État trouve prêteur sur les marchés internationaux. L'agence France Trésor, etc. C'est pas simple. On l'a lancé dans une situation impossible. Il fait au mieux des intérêts de la cause. Alors, peut-être qu'on pourrait être encore plus adroit. Naturellement, personne n'est parfait. Mais la censure par les deux extrêmes, gauche et droite, en la qualité du RN, c'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose de dramatique. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il reste Lucie Castet. C'est-à-dire Cuba.
Ou alors
Bernard Cazeneuve, mais qui ne sera même pas adoubé parce qu'il ne sera pas adoubé par suffisamment de députés. Non, ça rigole pas. Qu'il y ait
donc
des élections.
Regardez Barnier jusqu'en 2027.
Qu'il y ait des élections en 2027 ou avant, ok. La démission du président de la République, c'est pas réaliste non plus dans le contexte international actuel. Avec une élection en 35 jours où il n'y aura même pas de campagne électorale, si on veut aller dans le mur, on continue à faire mumuse, on continue à s'amuser, à jouer les députés minimoys là, du RN. Non, faut un peu de sérieux dans la vie. Là, c'est la France qui est en cause.
Sur le sérieux, je te rejoins. Jean-Martin. Mais Yael Braun-Pivet, elle est tout simplement factuelle et réaliste. Elle sait qu'elle ne pourra pas l'empêcher, la dissolution, et on le sait tous, malheureusement. Moi, je vais vous dire, les mots sont forts, mais moi, je suis dégoûté par mon pays. Ah bon ? Profondément dégoûté par mon pays. Ce qu'on vit depuis quelques mois, c'est abominable. D'abord, dans la réalité, on n'a pas de gouvernement. On n'a pas de gouvernement parce que ces gens n'incarnent pas la fonction. Qu'aujourd'hui, je mets au défi le moindre Français de me citer 10 ministres. On ne sait absolument pas qui c'est. Et on a un Parlement qui ne fonctionne pas. Et un Parlement dont la majorité présidentielle déserte la plupart du temps. Et donc, ne fait rien pour empêcher ce qui va arriver. Parce qu'effectivement, on va la prendre dans la gueule, la deuxième dissolution. Pas la dissolution, mais la sanction du gouvernement Barnier. Et tu as raison, on a une guerre qui est à nos portes. On a une France qui est isolée au sein de l'Europe. On a des BRICS qui n'ont jamais été aussi importants.
Il faut rappeler ce que c'est les BRICS. Hein. Ce sont les pays, l'Alliance, Brésil, Russie, Chine,
On est menacé comme jamais.
Afrique du Sud.
Et on va effectivement avoir une vacance du pouvoir. C'est gravissime. On devrait avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui s'allient, qui prennent conscience de l'importance du moment, tant sur le plan du territoire national que sur le plan de la situation internationale. Et à la place de ça, on voit uniquement des gens qui se battent pour des intérêts particuliers. Pourquoi croyez-vous que le rugby actuellement a cet essor? Très simplement parce que ce sport est l'essence même des valeurs où on se bat pour défendre l'autre, où on se bat pour le collectif et où on respecte, où on a un certain nombre de choses qui sont tout à fait respectueuse
alors,
du bien
Antoine
commun.
Antoine Dupont le à Matignon.
Alors. Le politique aujourd'hui, non, mais je dis ça parce que c'est important. L'essor que l'amour qu'ont les Français aujourd'hui.
Même si on n'est pas du même bord.
Vient aussi de là.
Même si on n'est pas du même bord, tu conclus qu'il faut absolument garder Barnier.
Ils viennent de là
c'est Barnier
parce que,
ou le bordel.
Non, mais ils viennent de là parce que les politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, les LR et les socialistes, donnent l'image exacte et inverse. C'est-à-dire qu'on défend sa gueule, on défend son intérêt personnel et on ne pense pas à la France.
On pense à la présidentielle.
Justement, une chose est certaine, je crois que tous les responsables politiques de notre pays devraient avoir une priorité aujourd'hui. C'est la réussite du gouvernement, parce que la réussite du gouvernement serait la réussite pour la France.
On a le droit de ne pas être d'accord avec ce budget, quand même.
Maintenant, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce budget, mais censurer, pour quoi faire? Il faut rappeler quelque chose.
Il
ne peut pas y avoir de dissolution. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de dissolution. Il ne peut pas y en avoir avant le mois de juillet prochain. Donc, pas de dissolution possible. Alors, on entend.
Mais même en juillet, il ne faut pas recommencer en juillet.
On entend certaines voix qui s'élèvent, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche d'ailleurs, qui disent OK, alors il faut censurer pour pousser Emmanuel Macron à la démission. Mais pourquoi Emmanuel Macron démissionne? Il a été élu en 2022 pour un mandat de 5 années et puis il a encore d'autres options qu'il n'a pas utilisées. Là, il y a eu la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre qui était, il faut le dire, quand même assez inattendu. D'autres options étaient sur la table, sont encore sur la table pour la suite, éventuellement pour un nouveau gouvernement. D'abord, il pourrait renommer Barnier, c'est vrai. Ensuite, pourrait y avoir ce gouvernement technique dont on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup envisagé. Et enfin, il y a cette potentielle ouverture vers la gauche de gouvernement avec Bernard Cazeneuve, avec cette scission qui augmente au sein du nouveau Front Populaire, qu'on voit de plus en plus marqué avec, d'un côté, notamment cette question-là du délit d'apologie du terrorisme qui est venu encore plus fracturer cette espèce d'union qui n'en est pas une. Donc, à voir, mais les options qu'a le président de la République sont encore nombreuses.
Oui, moi, je trouve que cette façon de dramatiser les choses, Emmanuel, tu es très brillant, mais en fait, aujourd'hui, les temps ont changé. Il n'y a plus de majorité possible. Donc, si tu n'es pas d'accord avec un budget, Et si le Premier ministre actionne le 49-3, la seule façon de dire non quand tu es dans l'opposition à ce budget, c'est de voter la censure. Ou alors, dans ce cas-là, il n'y a plus de démocratie.
Non, attends,
que, Olivier, je termine. Oui, mais la dramatisation. En plus, je ne suis pas convaincu que ce budget change quoi que ce soit, puisque c'est un budget qui prévoit encore un déficit. Et l'année prochaine, il faudra vraiment tailler dans le vif. On sait très bien que Michel Barnier ne fait pas complètement le job. Il ne réduit pas suffisamment les dépenses de l'État. Là, et en plus, il est en train de céder aux uns aux autres pour sauver son poste. Parce que Michel Barnier, pour lui, ce qui compte, c'est de rester à Matignon. Donc, il a déjà donné à Wauquiez ce qu'il voulait sur les retraités. Il va donner sans doute à Attal ce qu'il veut sur l'exonération de charges patronales. Et à mon avis, il peut céder sur Marine Le Pen en disant effectivement la taxe sur l'électricité. Donc, en plus, on a un Michel Barnier. Pardon, mais c'est pas Churchill, hein, c'est pas Thatcher, Michel Barnier, c'est plus Chirac.
Ben vas-y, toi, Matignon, plus Chirac. Olivier.
Comme le disait assez justement Alain Duhamel hier, c'est un radical socialiste. Oui, voilà, mais... un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Pardon, mais les augmentations d'impôts qu'il prévoit, j'avais l'impression que c'était Lucie Casset qui était déguisée en Michel Barnier. Donc, on a le droit de trouver ce budget assez mauvais surtout, et de dire ben, peut-être que Michel Barnier ne fait pas l'affaire.
Non, mais surtout,
et c'est pas une catastrophe.
Non, mais
la
surtout,
France
Olivier,
ne va pas tomber demain.
Non, mais surtout, Olivier, il y a un paramètre dont il faut te dire compte. Quand Bayrou dit. Mais enfin, personne ne peut penser foutre en l'air Barnier, hormis l'opposition. Mais sauf que l'opposition, elle est majoritaire.
Mais oui,
c'est le seul paramètre qu'il faut mettre en avant. L'opposition est majoritaire,
mais
il faut
quand
même se le mettre dans la tête. Après, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que c'est pas la fin du monde, etc. Tu as cité Alain Duhamel, moi je l'ai entendu intervenir. Alain Duhamel, qui a certainement la plus grande expérience de nous tous et la plus grande expérience de tous les journalistes au niveau politique, dit lui-même qu'il n'y a pas de référentiel, la situation que l'on va vivre, on ne l'a jamais vécue, et que tout peut arriver, et qu'en ça, c'est grave.
Oui, mais on n'est pas obligé de dramatiser, de faire peur encore plus aux Français. Je pense que les Français sont déjà
parler,
pas dans
toi,
une situation
pas,
de confiance absolue.
C'est vrai qu'on
si
a
en plus on rajoute...
On a vu quand même la dernière fois, ça a pris combien de temps de désigner ce gouvernement?
Est-ce que la vie des Français était bouleversée?
Non, mais ça a été...
On a continué à vivre sans gouvernement.
Ce qu'on peut regretter, c'est que c'est quand même des temps où, en fait, on ne peut pas réformer le pays, on ne peut pas conduire de mesures qui permettent d'avancer. C'est quand même une réalité.
Mais parce qu'il n'y a pas de majorité.
Oui,
et je rappelle simplement si Barnier tombe, ouais. Adopte le budget de l'année précédente.
Oui, mais tenez, ayez une chose en tête quand même. Hein. Au moment où on parle, il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui sont en péril.
Oui, c'est vrai.
Si ces entreprises n'ont pas d'interlocuteurs pour discuter de leurs affaires, elles vont mourir. Or là, si on a
l'administration est là.
Je te parlais d'un problème que je connais bien.
Vas-y.
Et le problème de la santé et notamment des cliniques où actuellement tu as 40% des établissements de soins qui sont proches du dépôt de bilan. Si tu as pas de ministre.
Il change tous les trois mois, le ministre de la Santé, il change tous les trois mois.
Peu importe, tu as besoin d'avoir cette hiérarchie-là. Quand on était sans gouvernement, on ne pouvait pas.
Qui est la ministre de la Santé là?
Quand tu n'as pas d'interlocuteur. Madame Darrieussecq, je la vois après-demain. Ah. Donc je lui parlerai de toi.
Bravo.
Mais si tu veux, quand tu n'as pas l'interlocuteur, tu ne peux pas gérer tes affaires, c'est impossible. Donc il faut qu'on ait des points d'accroche.
Sam est avec nous, Sam des Hauts-de-Seine, consultant marketing. Bonjour Sam.
Bonjour
alors,
à tous.
Alors c'est Barnier ou le chaos alors?
Barnier ou le chaos, mais il n'y aura pas de chaos, il faut arrêter avec ça. En fait, on nous sort toujours la même musique, c'est Macron ou le chaos, le RN ou le chaos, toujours le chaos, on est pessimiste à souhait, alors que bon, pendant trois mois, on n'a pas eu vraiment de gouvernement, hein. La France est arrêtée. La France est arrêtée, non. Est-ce que ça change quelque chose dans notre vie du quotidien? Non. La réalité, c'est ils votent leur budget ou pas. Il y aura, quoi qu'il arrive, un budget. On n'est pas les États-Unis si le budget n'est pas voté. On paye aucun fonctionnaire, le pays s'arrête, etc. C'est pas comme ça en France. Les institutions continueront à tourner. On n'aura aucun problème. La seule chose qui est regrettable, oui, les réformes n'avanceront pas. Mais de toute façon, quelle réforme peut avancer à l'heure actuelle? Avec cette assemblée-là.
Mais oui, de toute façon, parce que c'est ça, l'argument de dire, s'il n'y a pas de gouvernement, on ne réforme pas, mais de toute manière, Barnier ne peut rien faire, il ne peut pas réformer, Emmanuel.
Allez-y, Sam.
Il ne pourra rien faire, comme ces dernières années, on l'a vu, là, depuis le début du second mandat de Macron. Il ne peut rien faire. Il a les poings, les mains et les poings liés. Voilà. Là, ils font un peu leur spectacle, les uns et les autres. On soutient, on menace de le faire tomber. En fait, la réalité, c'est que même les oppositions ne veulent même pas vraiment le faire tomber. S'ils voulaient le faire tomber, ça fait longtemps que le gouvernement serait tombé. Même au moment de la politique générale, il serait tombé. Voilà.
Vous savez, en fait,
Sam... ils veulent pas le faire tomber. Un coup, le LFI, le NFP, etc., on vote pas avec le RN. Le RN, nous, s'il y a une motion de censure, on peut la voter, mais ça dépend les gages, etc. Rien du tout. Parce que personne ne veut vraiment y aller, parce que c'est un bourbier. Aucun parti ne veut vraiment gouverner. Là, on a pris des personnes. Barnier, il est en fin de carrière. Hein. Si on est un peu sérieux.
Politiquement.
Et voilà, il arrive là, c'est magique, ça lui tombe dessus. Bah, oui. Un peu comme Cazeneuve sur le mandat d'Hollande quand il devient Premier ministre. C'est un cadeau tombé du ciel. Il le prend. Il reste Premier ministre pendant un temps. Les autres,
bah, ça là, fait 80 jours,
Retailleau, il ne s'est jamais imaginé aussi haut. Il faut arrêter. À un moment donné, là, on a des seconds couteaux partout. Ils font le job en attendant.
Des
on attendra les prochaines,
oui.
les prochaines c'est élections. Et c'est là qu'on verra ce qui va se passer.
Mais Sam,
il faut arrêter. Là.
Sam, oui. Voilà, arrêtons de se faire peur, nous dit Sam, qui est consultant dans le marketing, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Arrêtons avec le scénario de c'est un tel ou le chaos, c'est moi ou le chaos, ça ne tient plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que si le gouvernement Barnier tombe, est-ce que vraiment vous craignez le chaos pour la France? C'est ce que dit Emmanuel Deville. Il dit l'enjeu c'est le pays, l'enjeu oui. c'est la nation, oui. c'est trop important. Emmanuel. On mais ne peut pas Barnier, jouer à la politique politicienne.
En 40 aussi, on avait la ligne Maginot. C'est, tout était prévu, on avait la ligne Maginot.
À enfin, la dette, elle n'a pas été créée par il y a trois mois, là.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC. C'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, c'est avec vous. Vous venez échanger comme tous les jours entre 9h et midi. Vous prenez la parole au 32-16. Comme ça, on sent le pouls du pays avec vous. Vous nous dites ce que vous pensez. Rachel Florpardo, l'avocate, est des nôtres aujourd'hui, tout comme le docteur Jérôme Marty, le chef d'entreprise Emmanuel Devilly. On va du côté de l'Essonne retrouver Nicolas, qui est chauffeur poids lourd. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe.
Est-ce que vous craignez ce scénario de Barnier ou le chaos, alors, dites-moi?
Non, je ne crains pas ce scénario. Alors, tout simplement, pourquoi? Tous ceux autant présents là que vous êtes sur le plateau, les deux dernières présidentielles, vous nous avez vendu Macron et chaos. Aujourd'hui, on peut faire le constat de votre fine analyse, à tous, hein. On le voit le constat. Hein. Donc, moi je me dis, votre analyse aujourd'hui, j'ai pas envie de l'écouter, pour moi elle vaut rien.
D'accord.
Parce que voilà, on fait le constat en fait, on peut le faire aujourd'hui. C'est simple. Les européennes, Macron, il prend une débâcle. Il dissout dans la foulée. C'est lui qui met le chaos en France. Et aujourd'hui, quand je vous écoute, quand on écoute les intervenants, c'est l'URN, c'est les filles qui vont mettre le chaos. Non, c'est pas eux qui mettent le chaos. C'est Macron qui met le chaos dans ce pays. C'est personne d'autre. Aux législatives, massivement, RN et LFI, même si LFI est dans la NFP, mais majoritairement, c'est ces deux parties-là que les gens ont voté. Donc c'est ces idées-là qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui, que ce soit dans le budget. C'est ces idées-là qu'on veut voir.
Oui, mais ils n'ont pas la majorité non plus, Nicolas.
Oui, mais peu importe, mais Barnier ne l'avait pas non plus. Barnier, il est en poste aujourd'hui parce que Macron ne voulait pas mettre quelqu'un de chez LFI ou de quelqu'un de chez NFP.
Oui, il voulait continuer sa ligne politique.
Alors, il voulait surtout effectivement, ne pas être en cohabitation.
Voilà, mais à un moment, quand est-ce qu'on écoute les Français? C'est nous qui votons.
Oui, mais ils n'ont pas tranché, les Français, puisqu'ils n'ont pas donné de majorité.
Il y a trois tiers.
LFI majoritaire avec RN, au niveau des...
Oui, mais ils ne vont pas gouverner ensemble.
Mais ils vont pas gouverner ensemble.
Mélenchon et Marine Le Pen ne sont pas dans le même gouvernement.
Ils ont des idées communes. Pourquoi Barnier ne va pas piocher chez eux pour le budget? Point.
Oui, est-ce que vous croyez... Non, mais parlons clairement.
Ils disent la même chose, quand même.
Si vous permettez, parlons clairement. Imaginons que le gouvernement Barnier, saute. Est-ce que vous pensez qu'on peut constituer un gouvernement en ayant des gens de LFI et du RN ensemble?
Ça dépend sur quoi?
Moi, je crois pas.
On parle pas d'immigration. Sur lequel ce point-là...
Mais par exemple, Marine Le Pen demande une réduction de l'AME, voire sa suppression, l'aide médicale d'État. Mélenchon, il est contre.
Ils peuvent se retrouver.
Mais il n'y en a pas beaucoup.
Il y a beaucoup de sujets où ils vont se retrouver.
Si, sur les retraites.
La marraine de mon fils, c'était LFI. Oui. Moi, je dirais, je suis plutôt à l'opposé. D'accord? Oui. Ça nous empêchait pas de discuter et on s'est rendu compte que sur beaucoup de sujets, on était d'accord.
Oui, c'est vrai que le programme économique de Marine Le Pen, c'est gauchisé, entre guillemets. Mais j'ai l'impression qu'il s'est en train de changer avec Bardella.
Et là, le budget, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de planter des plantes vertes ou on parle d'économie?
Non, mais là où on se rejoint, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'essaye pas de vous fourguer Macron. C'est pas ce qu'on
dit.
Non, certainement pas. Ce qu'on dit, c'est que la situation à ça d'extraordinaire, c'est que si on fait tomber le gouvernement, on n'a pas de possibilité de dissoudre à nouveau l'Assemblée. Donc, on se retrouve dans une espèce de vide qui n'a jamais existé auparavant. Il faut reformer un gouvernement.
C'est la 4e République.
Et ce gouvernement-là, encore une fois, je vous le dis, on ne pourra pas faire un gouvernement d'union parce que les politiques ne sont pas assez intelligents pour ça et n'ont pas le sentiment national suffisamment ancré pour ça. Certains vont vous dire, nous, on est plus patriotes que les autres, etc., etc. Mais en fait, ils défendent juste un intérêt partisan.
Nicolas,
qui est terrible.
Vous allez entendre un autre point de vue, celui de Richard Ramos, député MoDem de la 6e circonscription du Loiret. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Franchement, est-ce que c'est le scénario, c'est ou Barnier ou le chaos?
C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de toute façon où la 5e République, elle n'est pas faite pour avoir trois blocs à l'Assemblée nationale.
Il faut dissoudre le peuple.
Faut le prendre. Mais en fait, vous avez là où il y a raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le Premier ministre tombe, on ne peut pas dissoudre. On ne peut pas demander au peuple de redire clairement qu'est-ce qu'il veut comme majorité, plus clairement que ce qui a été fait. Et donc, oui, c'est le chaos. Donc,
alors, vous savez que Mme Braun-Pivet dit exactement l'inverse, la présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit que tous ceux qui racontent ça disent n'importe quoi. Elle dit « J'entends tout et souvent n'importe quoi. Nos textes sont bien faits, notre constitution et nos règles sont là, donc pas de catastrophe annoncée. » Arrêtez de faire peur aux Français, M. Ramos.
Non, faut pas faire peur aux Français, parce que la présidente de l'Assemblée nationale, elle regarde et elle a raison, plein de petits textes qu'on arrive à faire passer en commun. Quand on a débattu la semaine dernière sur une proposition que finalement c'est mes amendements qui sont pris sur les tickets restaurants pour savoir si les gens peuvent aller encore acheter à la grande distribution, on a trouvé un consensus au Parlement. Donc elle, la présidente, elle est sur la totalité des textes, c'est-à-dire sur 90% des textes qui passent au Parlement dans un travail en commun. Mais sur les grands textes, comme la retraite, comme les grands textes sur évidemment où on prend les 50 ou 60 milliards, là c'est plus compliqué parce que c'est politique. Et donc là, sans majorité, c'est quand même un chaos.
En fait, vous coincez tout le monde. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec le budget, on fait comment alors? Parce que puisque le 49-3 va être déclenché, Michel Barnier l'a quasiment annoncé, on n'est pas d'accord. Si on est dans l'opposition, donc le député de l'opposition, il fait quoi? Il dit « Ah ben non, attendez, ça va être la catastrophe, donc je préfère garder Barnier ». Enfin, c'est pas très démocratique, tout ça.
Pardon, les mêmes qui disent qu'il faut faire des économies parce que le surendettement... C'est à coup sûr des taux d'intérêt qui flambent, et notamment pour les plus modestes, et notamment pour ceux qui voudront acheter un petit appartement. Les mêmes, ils rajoutent des charges dans le budget. Donc oui, on n'est pas raisonnable. Il y a un moment donné.
Oui, mais ça parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous, mais. La politique, c'est qu'il y a une opposition, et il n'y a pas de majorité d'ailleurs, il y a une opposition qui est très forte, qui est même majoritaire, j'ai envie de dire. Et donc, peut-être que le budget de Barnier n'est pas convaincant aussi.
Mais il ne peut pas être convaincant, mais chacun doit prendre sa responsabilité. Je veux dire, on ne peut pas dire d'un côté, il faut faire des économies, et d'autres ajouter...
Mais il n'y a pas d'économie dans ce budget.
C'est justement le problème.
Il y a des augmentations d'impôts et de taxes.
Mais pourquoi? Parce que le Premier ministre est coincé. Vous savez que j'ai dit que ce gouvernement était un yaourt à durée limitée de consommation courte.
Moi, je suis d'accord avec le député Ramos, mais de toute façon, à la limite, on s'en fout du budget.
Bon, d'accord.
Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un gouvernement, sinon, ça va être le bordel, mais comme jamais. Les gens ne se rendent pas compte.
Ça l'est déjà, hein.
Allez-y, monsieur le député Ramos.
Emmanuel.
Attendez, allez-y, monsieur le député.
Regardez aux grandes gueules. Vous êtes 5 autour de la table et vous n'êtes pas d'accord. Alors imaginez qu'on est 577.
Oui, mais là, c'est le principe de l'émission.
Ça veut dire qu'il faut à la fin se mettre d'accord.
Oui, mais non, nous, on est là depuis 20 ans. Je ne pense pas que Michel Barnier restera 20 ans. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est les grandes gueules, ça fait 20 ans. Les gouvernements ne cessent de passer.
Vous devriez lui donner des conseils. Comment durer plusieurs années.
Monsieur le député Ramos, vous pensez que le gouvernement va tomber avant Noël? Très franchement.
Alors, moi, je ne crois pas. Je crois que Madame Le Pen, de toute façon, ne fera pas tomber le gouvernement si elle a un gros gain politique, notamment le bouclier tarifaire sur l'électricité. Ouais. Si Michel Barnier ne lui donne pas un gain politique,
d'accord, eh bien, ce sera pas possible. Parce qu'il faut arriver à l'Assemblée nationale. Ils sont tous en train de fabriquer des porte-avions pour essayer de faire décoller leur candidat à la présidentielle. Tous.
Et les centristes inclus. Et François Bayrou également?
Mais tous inclus. Bien d'accord, évidemment, François Bayrou aussi. Donc je me mets dedans sans aucun
vous
problème.
Aussi, Richard donc, ouais.
Madame. Ah oui, moi je pense.
Attends, pardon, non, monsieur Ramos, on va arrêter parce qu'on en.
On était au bord d'une déclaration de candidature de Richard Ramos.
La ligne est en train de se couper. En fait, c'est ça le scénario du moi ou le chaos, c'est que derrière, c'est la présidentielle qui joue tout de suite. Évidemment. Et ça veut dire que la pression viendra sur Emmanuel Macron en disant cette pagaille, c'est ce que jouera la France Insoumise ou le NFP et le Rassemblement National. En disant le gouvernement Barnier est tombé.
C'est pas faux non plus,
cette pagaille, c'est vous qui l'avez provoquée. Et donc, ils pousseront le plus possible la démission d'Emmanuel Macron.
Là, on s'est interrogé sur la question de la censure uniquement au regard du budget. Mais quand même, il faut peut-être un peu dézoomer. Il y a d'autres enjeux à côté quand on voit que le Rassemblement National commence à agiter la question de la démission. Quand on met ça en parallèle avec les réquisitions très lourdes qui ont été prononcées récemment à l'encontre de Marine Le Pen, qui évoque notamment éventuellement une interdiction de se présenter à l'élection présidentielle qui serait d'exécution immédiate. Eh bien, il faut prendre tout cela en considération. Et on voit d'ailleurs, je crois que Jordan Bardella n'avait pas exactement le même ton que Marine Le Pen ou que d'autres personnes au sein du Rassemblement National pour parler d'une éventuelle démission du président de la République. Donc on voit bien que là, derrière le jeu de la censure que brandit aujourd'hui le Rassemblement National, il n'y a pas que la question du budget, il y a aussi cet enjeu, cette tentation pour eux de provoquer une élection présidentielle anticipée qui, elle, véritablement, je crois, plongerait le pays dans le chaos. Je rappelle qu'une élection présidentielle anticipée, ça s'organise en 35 jours seulement. En 35 jours seulement, il faut réunir 500 signatures de maires, c'est pas rien.
Claire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe pensionnaire gestionnaire dans un collège, vous êtes dans le Val d'Oise. Est-ce que vous êtes sur cette théorie aussi de Barnier ou le chaos?
Non, il n'y aura pas de chaos parce que je partage, et pourtant je ne partage pas toutes les idées de madame la présidente de l'Assemblée nationale, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a beaucoup de constitutionnalistes qui le disent aussi. Nos institutions sont bien faites.
Merci Michel Debré.
Voilà, il y a des choses qui sont très très bien faites, donc je ne comprends pas dans un pays démocratique qu'on ait peur d'appliquer nos lois. Moi, ça me laisse un peu perplexe. Et puis aussi, en fait, il y a possibilité de 3 motions de censure jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il y a le PLFSS de la sécurité sociale aussi. Ouais. Il y a eu des résultats de législatives. De toute façon, c'est notre président qui doit nommer un premier ministre. Donc, si M. Barnier tombe, parce qu'il représente quand même un des plus petits groupes de l'Assemblée nationale.
C'est ça le problème.
Il n'a qu'à prendre le plus gros groupe. Alors, je dis gros groupe, on entend soit le RN, parce que c'est vraiment le groupe, ou soit l'ensemble des petits groupes qui forment le NFP, mais ça relève du choix qui est dans les prérogatives du président, donc c'est lui qui doit choisir. Mmh. Et ensuite, justement, si c'est le RN, on verra bien ce qui se passe jusqu'aux prochaines législatives, comment ils gèrent un budget. Ils n'ont jamais été partis du gouvernement, on verra bien. Moi, c'est pas le chaos politique, c'est nos élections, les gens
elle
qui
parlent
le
dehors, Claire.
C'est du bon sens, tout ça.
C'est du bon sens.
Voilà, exactement. Mmh. Enfin, moi, je suis pas partisane du RN. Mais
Claire, et elle a moins peur qu'Emmanuel.
Oui, mais. Non, mais
toi, t'as l'impression de c'est un Barguedon, là.
La situation est beaucoup plus grave, malheureusement, chère madame.
Barnier, la situation.
Je pense que la censure ne passera pas. Je pense que madame Le Pen sera condamnée à l'inéligibilité, mais sans exécution provisoire. Enfin, là, on marche sur des œufs, c'est du funambulisme. À l'échelon de la République, c'est quand même très grave.
Alors, craignez-vous. Merci, Claire, d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Bonne journée, et puis à bientôt pour de nouvelles discussions. Il est midi moins 25, on regarde là, on en a parlé pendant 20-25 minutes. Craignez-vous le chaos politique? Non, à 70%. Les Français sont sereins et réalistes, mon cher Emmanuel. Tu es dans les 30%.
C'est le tiers qui soutient Michel Barnier.
On peut trouver une sérénité avec une menace atomique de la Russie sans gouvernement, mais bon, après tout.
Et dans un instant, on va aller du côté de l'Oise, voir ce qui se passe dans la commune d'Amblainville, avec le maire et ses administrés qui ont enregistré une vidéo. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de médecin généraliste. Ou plutôt, ils en ont encore un, mais il a 70 ans, il va partir à la retraite. Et ils vont se retrouver sans médecin. A tout de suite.
RMC, 9h midi.
Les Grandes Gueules.
Bonjour, c'est Charles Magnin sur RMC.
RMC, Charles Matin.
On se retrouve tout à l'heure dès 5h en direct pour Charles Matin. Toute l'info, tous les sujets de votre quotidien avec toute la bande. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel et vous, à tout moment, au 32-16. On se réveille tous ensemble pour toute l'actu et votre dose de bonne humeur. Rendez-vous dès 5h sur RMC.
Tiercé, quarté, quinté, plat, obstacle, trop, handicap, engagement, corde, veillère, déféré, autostar. Trop de termes compliqués pour vos paris hippiques? Je peux vous simplifier la vie, je suis le diplomate. Appelez-moi au 08 99 100 303 et retrouvez tous mes tuyaux. Écoutez mes bruits d'écurie et mes infos confidentielles pour des paris clés en main. Faites confiance au diplomate et misez sur les gagnants. 0899 100 300 3. 2,99€ par appel plus prix d'un appel. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Spéry. On va terminer là, les GG, les Grandes Gueules. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble en s'intéressant à ce qui s'est passé dans la commune d'Amblainville. On est au sud du département de l'Oise. C'est une commune qui veut un nouveau médecin généraliste parce que celui qui est le titulaire sur place du cabinet, il a 70 ans. Il va partir à la retraite, sauf qu'il n'en trouve pas de médecin généraliste pour venir à la maison de santé. Du coup, le maire et une partie des administrés ont enregistré une vidéo dans laquelle ils disent « Ah, on est content d'avoir un médecin ». C'est une vidéo qu'ils ont tournée de manière humoristique avec des enfants.
Ça va, madame ?
Oui, oui, ça fait du bien d'avoir un médecin.
C'est vrai ? Il y a un médecin ?
Madame, on va vous prendre votre tension.
Madame, ouvrez votre bouche, s'il vous plaît.
Non, moi, je veux un vrai médecin.
Bah, trouvez-en un.
Il a raison, on en a encore pour 20 ans d'études.
Eh oui, mon cher collègue, mère des enfants, ce n'était qu'un rêve. Mais à Amblainville, nous avons une superbe maison médicale prête à vous accueillir. Que vous soyez en libéral ou en salariat, vous serez les bienvenus. À très bientôt.
Voilà, le maire d'Amblainville qui a tourné ce petit clip humoristique. Ouais, ouais. Mais ce qui est un vrai sujet aujourd'hui, un vrai problème dans notre pays, c'est la désertification médicale et le manque de médecins.
C'est plutôt sympa, Rachel Fleur.
Non, mais la vidéo est touchante, mais finalement, on parle d'une situation qui est dramatique pour les territoires. En effet, c'est ces déserts médicaux qui se multiplient, le manque de médecins sur le territoire français. C'est quand même une question qu'on entend depuis de plusieurs années. On est au courant de cette difficulté à recruter des médecins. Et c'est aussi pour ça que je crois que le gouvernement actuel ou sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron avait décidé de supprimer le numerus clausus. Alors évidemment, c'est une réforme qui prend du temps. Je crois que les médecins... Il y aura plus de médecins en 2030. Je crois que c'est les médecins de la génération qui n'a plus de numerus clausus arrivera en 2030, enfin pouvant exercer, il me semble.
Tu peux les aider en Blainville, docteur Marty, parce que je rappelle que Jérôme est à la tête d'un syndicat médical.
D'abord, je plains beaucoup les habitants d'Amblainville, comme je plains beaucoup les habitants de Montauban, de Toulouse, de Lyon, de Marseille, de la Creuse, de la Lozère, de Paris, parce que les déserts, malheureusement, c'est partout. C'est dans les grandes villes comme dans les villes moyennes, comme dans les déserts ruraux. C'est partout. Donc les politiques qui pensent qu'il y a des zones surdotées, des zones sous-dotées se trompent. Il y a soit des déserts, soit des zones en voie de désertification. Donc c'est terrible. La situation est terrible. Pour vous donner un exemple, j'ai ouvert mon cabinet, moi, ce week-end. J'étais le garde sur la clinique, donc j'ai ouvert le cabinet parce que, après tout, autant rendre service aux gens. J'ai des gens qui sont venus à Fronton pour se soigner d'Agen. D'Agen, combien de kilomètres ? C'est-à-dire qu'ils ont fait, en gros, 70 bornes pour venir soigner, 70 bornes pour repartir. 140 bornes pour aller voir le généraliste. J'ai un flot continuel de voitures qui viennent de Montauban, qui font 21 km pour aller voir le généraliste, 21 km pour rentrer chez eux. La situation, elle est comme ça. Aujourd'hui, un généraliste, il met 10 ans pour se former, et il faut en gros 8 ans à 10 ans avant qu'il s'installe. Parce que la situation est tellement peu attractive... Ils attendent. Et donc 20 ans
dans l'Oise,
avant que la nation
intervienne. Dans ce village, à Blainville, parce que tu as entendu le maire, il dit en libéral ou salarié.
C'est l'exemple même. Et le maire nous dit regardez, on a une superbe maison médicale. Ouais. Que vous soyez salarié ou libéraux, venez. Ça prouve une chose, c'est que tu peux faire toutes les plus belles maisons médicales du monde.
C'est un peu comme si tu croyais que si tu construis une gare, le train va passer. Malheureusement, c'est pas si simple. Il y a deux questions à se poser. Ces questions,
qu'est-ce qui manque alors pour attirer un médecin là?
D'abord, il faut que le maire se demande, on avait un médecin, on n'en a plus, qu'est-ce qui s'est passé?
Le médecin a 70 ans,
il part en retraite. Quelle est cette situation qui a changé pour nous et qui fait que tout d'un coup, on ne veut pas s'installer chez nous? Il n'y a pas que le problème de la maison médicale, il y a peut-être un problème d'école, il y a peut-être un problème de structure commerciale, il y a peut-être un problème de voirie. Parce que le médecin qui s'installe, il fait 10 ans d'études sur un campus universitaire. Ça veut dire qu'il se marie avec une femme ou avec un homme si c'est une femme, qui a un métier aussi scientifique. Et en général, la médecine devient le deuxième métier du ménage. Ça veut dire que le conjoint ou la conjointe a un métier encore plus technique. Imagine que le conjoint ou la conjointe du médecin soit ingénieur dans le nucléaire. Tu vas l'installer là? C'est très difficile. Imagine qu'il soit pilote chez Airbus. Tu vas l'installer là?
Cet argument ne vaut pas pour des grandes villes alors.
Alors, cet argument, il est aussi valable pour les grandes villes, mais dans les grandes villes, il ne s'installe pas. Pourquoi? Parce que pour la profession du